Pauline Pucciano, Titania 3.0. Dernier chapitre, Renaissance. Cela faisait presque 2 mois que Jean et Titania vivaient seuls sur l'île de Lormay, et leurs nouveaux amis n'allaient pas tarder à revenir les chercher. C'était du moins ce dont ils étaient convenus en se quittant. Mito avait choisi de rester avec Danton et promis d'être parfaitement guéri lorsqu'ils se reverraient. Jean et Titania avaient emporté des doses de nutriments, de l'eau, le Hervé fantôme et la rémanence d'Olympe, et s'étaient coupés du monde, heureux, sans se retourner. « Ne vous disputez pas, hein ?» avait lancé Mito, alors que la péniche commençait à remonter le courant. « Et toi, tâche de ne pas taper sur les nerfs de ton hôte !» avait crié Titania. Lorsque plus rien ne fut visible sur la scène, lorsqu'ils furent vraiment seuls, ils se sentirent petits et fragiles et se serrèrent l'un contre l'autre. Aucun des deux n'avait l'habitude de cette solitude, et malgré la fatigue, ils eurent beaucoup de mal à dormir les premières nuits. Le lit ancien, au sommier grinçant, au drap de coton humide, leur paraissait antique et hostile. Rien ne paraissait propre dans cette vieille demeure qui était le royaume d'insectes variés et inconnus, et où flottait en permanence une odeur organique de tourbe et de pourriture, où se mêlaient parfois, comme des rayons gracieux, des parfums de fleurs et d'herbes ensoleillées. Ces odeurs heurtaient leurs narines urbaines, et le silence enfin, rarement enfreint par de lointains moteurs, baigné du clapotis de l'eau, les impressionnait et les empêchait presque de parler. Titania pleura encore un peu la première semaine, lorsque les plaies ou les souvenirs étaient trop douloureux. Jean alors la consolait comme une enfant, et lui racontait des histoires féeriques, où des intelligences artificielles s'éveillaient à la vie, et où les jeunes filles changeaient de peau. Elle les écoutait les yeux clos. Il lui écrivait des poèmes, presque chaque jour, et les lui récitait à la nuit tombante. Toute la journée, ils se consacraient à leurs tâches, avec la plus grande application. Celle-ci consistait à transformer le compte OMS de Titania, de manière progressive, en une tribune politique. Un grand nombre de courtisans avaient déserté le palais, et il fallut nourrir le compte qui, à l'instar d'un être vivant, florissait ou dépérissait en fonction des circonstances et du temps qu'on lui consacrait. Titania et Jean avaient longuement discuté de chaque texte à poster, de chaque vidéo, de chaque lien. Jean écrivait souvent des textes engagés, qu'il signait parfois de son propre nom. Titania était devenue, en l'espace de ces quelques semaines, une nouvelle créature médiatique. Une fois atteinte l'apothéose de son personnage désabusé et décadent, il ne restait qu'à disparaître ou à se métamorphoser. Et les courtisans guettaient déjà sur le réseau l'apparition d'un nouvel avatar, d'un nouveau nom, d'un nouveau visage, dans lesquels ils seraient ravis de reconnaître le style inimitable de leur idole du self-art. Ils furent donc surpris de constater que le compte ne fermait pas, et que Titania se survivait à elle-même. Certains d'entre eux furent désappointés et le manifestèrent, d'autres, séduits par ce renouvellement inattendu, continuèrent à la suivre. De nouveaux courtisans, enfin, apparurent, plus éloignés de l'univers du self-art et plus marqués politiquement. La nouvelle Titania n'était plus auréolée de la même magie. Mais les photographies qui furent publiées à cette période comptèrent parmi les plus artistiques qu'elle eût postées. Titania fit une série d'autoportraits décalés, très travaillés numériquement, qu'elle intitula « Mutilés ». Couronnée de déchets, exhibant à l'endroit du cœur une blessure ouverte, le crâne partiellement rasé ou recouverte de sang, sa beauté y était à la fois affichée et détruite, composée et légèrement inquiétante. Titania retravaillait aussi les photos que Jean prenait d'elle à son insu et qu'elle se mit à préférer à ses autoportraits. Elle monta ses instantanés du quotidien, où elle dormait, buvait de l'eau, jardinait ou marchait, avec des morceaux des paysages détruits de la Beauce que Jean avait photographiés de la péniche. Titania, en noir et blanc, apparaissait comme en surimpression sur ces terres dévastées, saturées de jaune, où le ciel lui-même paraissait imbibé de poison. Cette série fut intitulée Anti-Éden. Enfin, elle posta des photographies où elle ne figurait qu'à peine. Un reflet dans un miroir, une ombre sur le sol, une mèche de cheveux devant l'objectif, et où des sujets divers étaient mis en scène comme pour une publicité. En noir et blanc, elle photographia un morceau de mousse parmi des bijoux bon marché qu'elle trouva dans la maison, ainsi qu'un champignon rachitique aux formes tourmentées au milieu de plaquettes de nutriments. Sa photo préférée dans cette série représentait un gros scarabée mort aux mystérieuses luisances qu'elle posa sur sa propre main comme une bague. Malgré ces images qui répondaient tant bien que mal aux attentes des courtisans assoiffés, la nouvelle Titania était cependant devenue plus textuelle que visuelle. Jean lui proposait des textes divers, poèmes, textes en prose, lettres ouvertes, qu'ils retravaillaient ensemble. Titania incitait ses courtisans à ce qu'elle appelait la métamorphose. Le matériau ultime de l'art, selon elle, était le passage à l'action et le sommet du self-art, l'extériorisation de soi, la sortie du cocon. Après s'être travaillé soi-même, il fallait « travailler le monde ». L'expression était d'elle et elle semblait y tenir particulièrement. Les courtisans disaient attendre un mot d'ordre de cette nouvelle philosophie, un vademécum qui orienterait leurs actions. Titania savait que des milliers de gens avaient imité ses cheveux blancs, son up crânien et chaque caprice esthétique qu'elle s'était inventée, et cela ne l'avait jamais dérangée. Mais à présent qu'il s'agissait d'agir non pas sur soi, mais sur le réel, elle répugnait à prendre cette responsabilité. « Tu dois leur montrer une voie », lui dit Jean, un jour, après avoir lu des dizaines de commentaires convergents. « Et comment leur montrer une voie que je cherche moi-même ? Je ne sais pas, tu pourrais au moins leur montrer la voie dont tu t'es détournée. » Titania avait réfléchi, et ils décidèrent ensemble d'infléchir le contenu de leur poste. Les allusions à l'actualité se firent plus nombreuses, les critiques des corporations aussi. Jean inventa des slogans pour déprécier les marques. « Lead vous hypnotise, Illness vous vend deux maladies pour le prix d'une », qu'ils illustrèrent parfois de photographies surréalistes. Et puis, au fil des jours, tandis que Titania cherchait de quelle façon porter un coup à Morgan Corp, une idée germa dans la tête de Jean. « Et si nous faisions de ton flux direct une sorte de journal ?»« Comme un journal d'information ?»« Non, comme un journal de bord, » dit-il. Comme ceux que les capitaines des navires tenaient sur du papier pour décrire leur traversée. Titania devint rêveuse. Cette idée lui plaisait. Sur quoi mettrait-on le cap? L'élucidation de l'affaire du Panacor, par exemple. Et nous posterions les résultats intermédiaires de notre enquête, ainsi que nos difficultés, nos hypothèses, nos fausses routes. Les courtisans pourraient nous aider à faire avancer l'enquête, ou créer des événements, des rassemblements, le blocage de certains lieux. Titania riait à présent, tout enflammée. Est-ce que Danton et Robespierre seront d'accord? N'ont-ils pas dit que chaque cellule s'organisait de manière indépendante? Mais de quoi allons-nous vivre? Nous sommes des HR à présent. Il ne faudra rien posséder que nous ne puissions transporter avec nous. Nous trouverons bien une solution chaque jour pour manger et dormir. Titania fronça les sourcils. Je ne veux pas vivre dans la rue, Jean. Je n'aurai pas ce courage. Nous trouverons une solution. Titania frissonna dans l'air du soir, et ce frisson était dû à la fois à la peur et à l'excitation, deux sentiments qu'elle n'avait plus éprouvés ensemble depuis si longtemps qu'elle ne se rappelait plus leur saveur acide. Le jardin de la maison était devenu presque accueillant à force d'y travailler, et ils y passaient, malgré la fraîcheur grandissante, beaucoup de temps. Jean paraissait souvent aux aguets et tendait l'oreille brusquement en réclamant le silence avec le doigt. Titania restait figée un instant, puis se moquait de lui, et il se remettait à bavarder et à rire, mais Jean n'était pas tranquille. Plus les semaines passaient, plus il trouvait dangereux de rester ici. La police finirait bien par retrouver la trace de cette maison, et toutes les photos qu'il postait sur le compte de Titania devaient être épluchées pour tenter de les géolocaliser. N'était-ce pas ainsi que cela devait finir? Une descente de police, des armes à feu et un grand vacarme. Ils étaient des HR et personne n'aurait besoin de justifier quoi que ce soit. Si la police ne s'en mêlait pas, ce pouvaient être aussi bien les hommes de main de Morgan Corp, et ils termineraient dans un camion frigorifique, les organes empaquetés dans de jolis sachets stériles. Ces visions ne le quittaient jamais longtemps. Elles formaient le pendant du bonheur qu'il éprouvait le reste du temps auprès de Titania. Depuis qu'il l'avait rencontrée, il avait peur de la perdre, et cette peur avait été si près de se concrétiser qu'elle était devenue presque constitutive de son amour pour elle. Cette histoire, trop belle pour être vraie, devait avoir un vice caché. Mais plus il passait de temps avec Titania, plus il comprenait que le vice n'était pas en elle. Titania avait une sensibilité qui l'émerveillait, une force qui le rassurait, une fragilité qui le touchait plus qu'il ne pouvait l'exprimer. Et plus elle lui semblait parfaite, plus il lui paraissait évident qu'elle allait disparaître, tout à coup, en le laissant infiniment en deuil. Jean, comme tous les matins, s'était éveillé plus tard que Titania. Le bruit mat de la pluie sur le toit l'avait tiré du sommeil, et il sourit en se levant songeant que la pluie n'avait cessé de lui être totalement indifférente que très récemment. Jadis, dans son appartement parisien, il ne savait jamais quel temps il faisait. Il marcha furtivement dans la maison, armé du Hervé, dans l'espoir de surprendre Titania et de la photographier. Il la trouva au jardin, en train de se laver sous une pluie battante. Elle avait les cheveux trempés, et son corps ruisselant attrapait les rayons en même temps que l'eau du ciel. Elle avait l'air d'une nymphe, s'ébattant dans le déluge avec insouciance. Il prit une douzaine de photos, incrédule devant une grâce si primitive et si puissante. Jamais ses vêtements de prix, jamais ses accessoires de luxe, ni ses déguisements sophistiqués ne l'avaient amenée si près de ce qu'elle voulait être, une apparition d'un autre monde. Elle ne le remarqua pas, et il rentra vivement pour protéger le Hervé. Il décida de l'attendre dans la cuisine, et après avoir avalé une dose de nutriments, il cliqua sur l'icône de sa mère. Aussitôt, le visage familier et bienveillant apparut sur l'écran. « Bonjour, Jean, » dit-elle depuis cette infinie distance qui les séparait. « Bonjour, maman, je suis dans la maison sur l'île de Lormet. Je suis heureuse que tu aies trouvé ce refuge. Nous y avons passé quelques étés pendant ton enfance. T'en souviens-tu ? » « Oui. Nous y avons enregistré ton souvenir 3D. C'était un jour ensoleillé, et sur l'île, on pouvait facilement oublier le paysage ravagé derrière les saules. « Qui est Danton ? Connais-tu son nom ? Oui. Connais-tu son nom ? Il s'appelle Abdel. Dieu merci, tu les as retrouvés. Écoute, cela fait quelques mois que je songe à te mettre dans la confidence, mais tu es si jeune, et je ne suis pas sûre de vouloir que tu suives mes traces. Je veux suivre tes traces, maman. » Et j'ai déjà commencé. Alors le temps a passé, et tu as fait ton propre choix. Mais rappelle-toi qu'on n'est jamais obligé d'accepter un héritage. Je sais. Danton et Robespierre sont mes plus chers amis. Je ne sais pas si je les aime d'amitié, ou d'amour, ou bien comme on aime ses frères d'armes. Je ne sais pas comment ils m'aiment non plus. Ce sont des choses que nous ne nous sommes jamais dites. Mais le lien entre nous est fort. L'un des deux est-il mon père ? Non, Jean. Et je te réponds sans la moindre hésitation. Je ne t'ai pas menti au sujet de ton père. Il était bien un brillant designer, fan de musique de chambre. Veux-tu que je te parle de lui ? Non, pas maintenant. Je voudrais que tu me parles de Danton et de Robespierre. Danton et Robespierre sont mes plus chers amis. Je leur ai confié ma vie plusieurs fois, et je suis heureuse que tu sois désormais en relation avec eux, car ils veilleront sur toi. Parle-moi de la dissidence. Ils t'en parleront mieux que moi. Je n'ai jamais été très douée pour les organisations. Moi, j'ai toujours fait mes affaires toute seule, et je ne sais pas où cela va me mener. Cela t'a mené à la mort, maman. Tu as officiellement fait une mort subite de l'adulte. La rémanence ne semblait pas programmée pour parler de sa propre mort et marqua une pause. Pourrais-tu me dire tout ce que tu sais sur l'affaire du Panacor, reprit Jean ? Bien sûr, répondit-elle d'une voix grave. Mais le temps imparti pour chaque réponse est trop court pour que je le fasse d'une seule traite. Tu devras me poser des questions si tu reprends l'enquête. Jean se mit à rire. « Comment sais-tu que je vais reprendre l'enquête ?»« J'ai décidé de faire cette rémanence au cas où. Je me doutais que j'allais mettre le pied dans une dangereuse fourmilière. »« Pourquoi l'as-tu faite alors ?»« Parce que cette lutte est tout ce qui nous reste. Regarde autour de l'île, à quoi ressemble le monde. C'est cela le réel, pas les élucubrations du réseau. »« Le réseau est aussi une forme de réalité. Le réseau ne doit pas dévorer le monde. » Jean tourna la tête. Titania venait de rentrer, et elle avait besoin de quelque chose pour se sécher. Il quitta la rémanence et entoura la jeune fille d'une couverture qui se trouvait sur le canapé. « Tu sais quoi ? » demanda-t-elle après qu'il l'eut embrassée. « Dis, il y a une péniche qui approche. » Le cœur de Jean fit un bond, et il supplia Titania d'aller se cacher, tandis qu'il se risquait dehors. Il ne fit pas attention à la sensation désagréable de la pluie froide qui coulait de sa tête dans son cou, et traversa le rideau de saule. Puis il scruta, dans l'air opaque et humide, la péniche silencieuse qui s'approchait. Il lui semblait entendre une voix totalement anachronique, chantant un aria baroque. C'était probablement une voix de ténor, avec un beau timbre et une technique médiocre. Il était tellement étrange d'entendre un chant pareil sous cette pluie, dans cette île hors la loi, qu'il crut un moment être en train de rêver. Puis la voix cessa de chanter et se mit à crier « Jean, ne nous canarde pas, c'est nous !» Mito était apparu sur le pont. Jean pouvait le reconnaître à cette distance. Coiffé et rasé de près, un peu moins maigre aussi, il fit un salto sur le pont en guise de salut. « On dirait que tu es guéri !» cria Jean, ravi. Mito souleva la jambe de son pantalon, et Jean crut apercevoir la lueur métallique d'une jambe cybernétique. « C'est une longue histoire, je te raconterai !» La péniche s'amarra au ponton du bout de l'île, et pendant la manœuvre, Jean alla chercher Titania. « Je suis contente de les voir, mais je suis triste que nous ne soyons plus seuls, » dit-elle alors qu'ils accostaient. Jean se tourna vers elle. La pluie n'avait pas cessé, et ils étaient tous deux trempés. Dans cette lumière mouillée d'automne, qui noyait tout de gris, son visage blanc et ses yeux lavandes rayonnaient.